Bonjour. Bonjour, comment allez-vous?
Oh, tout doucement. Ah oui, tout doucement. Je sais pas, j'ai pris un coup de froid.
T'as toujours froid?
Et j'ai pas chaud. Ça m'arrive rarement, mais là, ça m'est vraiment arrivé. J'ai dû prendre un coup de froid, je ne sais pas comment.
Wow. Je te chauffe une chaufferette, là.
Pardon?
Tu veux ta robe de chambre? Tu veux quelque chose?
Non, pour le moment, ça va.
Jeanne Borzakian est née le 14 décembre 1918, près de Lodz, en Pologne.
Jeanne Sylvier Borzakian. Sylvier, c'est mon nom de jeune fille. On m'a toujours appelée Jeannette.
Arrivée à Paris en 1928, elle décide 2 ans plus tard de quitter l'école et de travailler pour aider ses parents. En 1936, au moment du Front populaire, elle est déjà une militante communiste chevronnée. Et c'est sans hésitation qu'elle rejoint la résistance pendant l'occupation allemande. En compagnie de sa fille Josette, nous nous sommes donné rendez-vous un dimanche après-midi dans un appartement tout proche de la place du Colonel Fabien, dans le 19e arrondissement de Paris. Aujourd'hui, premier épisode, avant la guerre.
Comment ça se fait que vous êtes venue en France?
Il n'y avait pas de travail en Pologne. Alors comme on avait de la famille ici, mon père est venu le rejoindre. Et après, quand papa a vu qu'il avait du travail, il nous a fait venir avec moi. Il a fait venir sa femme avec ses 4 enfants. Après, nous étions 5.
Après, mais plus tard.
Et voilà.
Mais quand vous êtes venu, il y avait aussi d'autres raisons, non?
Pardon?
Il n'y avait pas d'autres raisons? Comme par exemple l'antisémitisme,
ah, oui,
d'une part.
Il y avait énormément d'antisémitisme en Pologne. Énormément. Et puis, mon père a été obligé de fuir.
Et puis en plus, ton père, on a su ça bien plus tard, mais il était aussi, il avait des engagements politiques qui...
Ah, oh bah bien sûr.
Qui l'ont l'ont obligé à fuir la Pologne.
Dans la famille, on a toujours eu des engagements politiques. Écoutez, nous, on est de gauche. On est de gauche. Et on a toujours milité de gauche. Mon père était un militant. J'habitais pas loin de Lodz. Et c'était un grand bourg. Un grand bourg. Il y avait une église, c'était bien. J'allais à l'école. Ça, on a toujours été à l'école.
Donc là, vous n'avez pas ressenti d'antisémitisme à ce moment-là? Quand vous étiez avec les Polonais?
Bah, écoutez, sincèrement, non. Parce que on ne fréquentait que des catholiques.
Et alors du coup, quand vous arrivez en France, vous avez 10 ans.
Oui.
Et ça vous avait fait quoi comme impression?
Bah écoutez, j'étais dépaysée d'abord. Hein, parce que c'était une belle ville. Puis on était... Il n'y avait pas de juifs, il n'y avait pas de catholiques. Nous, on était avec tout le monde.
Elle, à 12 ans, elle n'a plus voulu aller à l'école.
Ah oui, ça je m'en rappelle.
Parce qu'il y avait la misère un peu à la maison, donc elle voulait aider ses parents. Elle n'avait pas encore le droit de travailler, mais ils habitaient à l'époque le 18e. Et elle allait boulevard Barbès garder un étalage de chaussures, je crois, c'est ça? Et puis ensuite, ils ont déménagé, donc je ne sais pas trop quelle année, ça doit être en 35. Ils ont déménagé du 18e, rue Saint-Denis, dans le 2e. Et là, elle a cherché du travail. Je crois que tu t'es fait embaucher à l'ANOMA en 35. Justement, en 35. L'ANOMA, c'est l'ancêtre,
magasin
du Monoprix de... qui existe toujours à Réaumur-Sébastopol. Et donc, tu étais là en 36, quand il y a eu le Front populaire. Et qu'est-ce que tu as fait là?
Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait comme tout le monde. Je me suis engagée dans le parti communiste. Il y a eu des grèves. J'ai mis les succursales en grève. On était 2, on allait dans les magasins, on expliquait aux filles pourquoi il fallait le faire, et puis elle se mettait en grève. Surtout qu'à l'époque, vous savez, les vendeuses étaient très mal payées. Hein.
Et donc voilà, et ensuite, vous avez obtenu satisfaction.
Ah oui. Ah oui. En général, quand je faisais quelque chose, j'obtenais satisfaction. Ça, pas toute seule, mais on obtenait satisfaction.
Et donc, c'est à ce moment-là que vous vous engagez au Parti communiste ?
Oui.
D'accord.
En 36, c'est une année faste. Mais on a passé une sale période.
Hein, et
parce que mon père, il travaillait à Réaumur à ce moment-là. Il était en grève ici, aussi. Et je vous assure que pour la nourriture, c'était très dur. Moi, j'avais une maman qui était très, très astucieuse. Elle prenait de la farine, de l'eau. Si elle avait un œuf, elle mettait un œuf. Elle faisait des pâtes. Ma maman était une bonne ménagère. Nous n'avons jamais acheté de pâtes. Maman les faisait.
En plus, tu me racontais qu'ils allaient au Halles, c'était tout près.
Ah oui, on avait la chance que nous habitions à côté des Halles. Alors vous savez, à la fin de la vente, en gros, dans les Halles, ils vendaient un peu au détail. Et nous, on y allait comme ça, et ils nous vendaient. Et on arrivait à se nourrir, parce que c'était vraiment bon marché. Vous savez, en 36, en France, c'était une période très, très dure pour les ouvriers.
Je crois que tu m'avais raconté que c'est la seule fois où tu as vu ton papa pleurer.
Mon père, il pleurait ça. Parce que ma petite sœur venait de lui demander un petit morceau de pain, qu'elle refusait le pain habituellement. À l'ANEMA, à ce moment-là, nous étions nourris, parce que là-bas, il y avait une grande réserve de produits alimentaires, puisqu'ils vendaient. Alors, il y avait un cuisinier qui travaillait là-bas, et puis on nous donnait à manger. Et je vous assure que ça m'était dur de manger ce qu'ils me donnaient. C'est pas que c'était mauvais, hein. C'était très bon, parce que la nourriture a été faite pour nous. Je savais qu'à la maison, mon père à ce moment-là travaillait chez Réaumur. Et Réaumur, c'était pas du tout la même chose. Il y avait une collègue, elle me disait, mais il faut que tu emmènes à manger. Pour pas te gêner, il y en a ici.
Et vous l'avez fait ?
Ben, à la fin, j'étais obligée de le faire. Parce que mes frères et sœurs, ils n'avaient pas à manger.
Mais au départ, tu avais refusé, je crois.
Comment ?
Au départ, tu avais refusé.
Bah, évidemment, j'avais refusé, parce que chez nous, quand on prenait quelque chose, mon père il disait, c'est du vol. Alors, on ne ramenait rien, hein.
Et ça s'est arrangé par la suite avec le Front Populaire ou pas ?
Ah oui. Oh oui.
Rapidement ?
Rapidement.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui a changé ?
C'était des types vraiment qui dirigeaient bien.
Comment ils ont fait pour que ça s'arrange ?
Eh bien, les patrons ont augmenté les salaires. À partir du moment où ils ont augmenté les salaires, mes parents pouvaient acheter, puisque la paye, je ramenais la paye à mes parents. À partir du moment où j'ai travaillé, j'ai toujours ramené ma paye à la maison.
Donc 36 vous permet de partir en vacances. Vous aviez vu déjà, vous, la mer avant ?
Jamais. On était dans une commune qui était très gentille, je ne me rappelle plus comment elle s'appelait. Et c'était pas loin de la mer. Et la municipalité était de gauche. Alors ils nous emmenaient à la mer, et puis ils nous faisaient manger. Avant de partir, ils faisaient à manger. Et puis on mangeait.
Vous mangiez quoi ?
Bah, ce qu'ils préparaient, des pâtes. Pas des gâteaux, hein, croyez-moi.
Et ton père, tu m'avais raconté, ça me revient, la première fois qu'il a vu la mer.
Ben, il est resté toute la journée devant. Il est assis devant la fenêtre et puis il a regardé. Il est resté toute la nuit devant. C'était la première fois. Moi aussi d'ailleurs. Tout le monde. Nous n'avions jamais vu la mer.
Et vous vous êtes baigné ?
Oh, certainement, hein. Je vous dirai pas comment, mais alors vous savez, moi qui aime l'eau, certainement que je me suis baigné. Ça, j'aurais pas laissé cette occasion.
Jeanne Borzacian, une femme d'exception, Aujourd'hui, deuxième épisode, les liaisons dangereuses. Quand la Deuxième Guerre mondiale éclate, Jeannette a 20 ans. Après la défaite de la France et l'occupation allemande qui suit, elle décide de passer à l'action. Elle se rapproche donc de sa cellule du Parti communiste dans le 2e arrondissement de Paris où elle habite. Ce sera son premier réseau de résistance.
Mon raisonnement était le suivant. Les Français nous ont accueillis, mes parents, avec les enfants, 5 enfants. Donc il faut que je fasse quelque chose et je me suis engagée. On était par deux, on se collait au mur avec le copain et puis on restait l'un devant l'autre comme si on était des amoureux. Et pendant qu'on se parlait ou on faisait semblant de se bécoter, et ben moi derrière je collais sur le mur des papillons.
Et alors, ils disaient quoi ces papillons?
Ne pactisez pas avec les Boches, fuyez l'ennemi, ce que je sais.
Au début, Jeannette continue de travailler comme vendeuse à la Noma.
Le samedi et le vendredi, je vendais des brioches. Et puis j'avais un client qui m'en prenait toujours 2 ou 3. Il avait de l'argent. Et puis un jour, il vient et puis il me dit « Je voudrais 3 brioches. » Pendant que j'étais en train de prendre ces brioches, il dit qu'il n'ait pas été touché par une juive. Quand j'ai entendu ça, j'ai pris les plus grosses. Je les ai mis dans un sac, je les ai données, j'ai dit « Tenez, monsieur, elles n'ont été touchées par personne. » Oh ben, il dit « Je vois bien. » Ben, je dis « Regardez-moi bien, je suis une youpine. » C'est pas vrai qu'il m'a dit « C'est pas possible, c'est pas vrai. » Ben, écoutez, demande. Je me rappelle toujours. J'ai ameuté tout le magasin. Enfin, j'avais une camarade, elle s'appelait Céline. Céline, qu'est-ce que je suis, moi? Bah, dis-le, elle savait pas ce qu'il fallait dire. Je dis, est-ce que c'est vrai que je suis une youpine? Elle me dit oui. Eh ben voilà, vous avez la réponse, moi je suis une youpine.
Et alors le...
Bah, après, la direction m'a appelé. C'est vrai? Ben, je dis, bien sûr, monsieur, que c'est vrai, je suis une youpine. Pourquoi vouliez-vous que je lui mente? La preuve, c'est qu'il m'a pris mes 3 brioches, il les a pas laissées.
Ah ben voilà.
Mais la loi du 3 octobre 1940 sur le statut des Juifs oblige Jeannette à quitter son travail.
Moi, j'étais vendeuse et j'avais pas le droit d'être en contact avec les gens.
Dans son relevé de carrière pour la retraite, il y a donc marqué, il y a les dates précises, je crois que c'est 40, de 40 à 45 ou 46. À la main, c'est marqué cause raciale.
Comment vous vivez alors?
J'étais agent de liaison.
Le parti vous payait pour faire ça?
Oui, ce qu'il pouvait.
Qu'est-ce que vous faisiez comme mission en tant qu'agent de liaison?
Eh ben, je portais des plis. Mais ne demandez pas ce qu'il y a dedans. Moi, je ne savais pas non plus. Alors, il ne fallait pas le savoir.
Et comment ça se passait justement? De qui vous receviez l'ordre?
J'avais un contact avec un signe distinctif. Soit un journal plié, soit il y avait quelque chose.
Comment ça se passait? L'échange était très rapide, j'imagine.
Très, très rapide. D'abord, on regardait bien si on n'était pas suivi. Et puis ensuite, on se passait le document et on s'en allait.
Et vous aviez toujours les mêmes contacts ou ça changeait?
Pas toujours. Ah ben non, pas toujours. S'il n'était pas là, c'est mauvais signe. Je m'en vais. Au bout de 5 minutes, je m'en vais. Et vous... Je m'en allais et j'avais un contact. J'avais un contact que j'essayais de rattraper. On avait toujours un contact qu'on pouvait trouver, mais pas longtemps.
Est-ce qu'il y a des moments où vos actions se sont mal passées?
Mal passées, non. Parce que nous étions toujours tellement en éveil quand on faisait notre travail que on sentait, ça nous brûlait, ça nous donnait des signaux dans le dos, ça brûlait, ça... C'est bizarre, mais c'est comme ça. Quand on l'a vécu, on vous le raconte. Celle qui ne l'a pas vécu, elle ne sait pas ce que c'est. C'est tout. Alors, on sentait. Quand on était pisté quelque part, on sentait. On avait chaud dans le dos, on avait quelque chose, on était mal à l'aise. Ça vous électrise un peu, ça fait drôle.
Jeannette, clandestine, apprend qu'elle est activement recherchée.
Quelqu'un est allé trouver la concierge d'où habitait mon père en demandant. Et M. Borzakian, il fréquente une blonde, vous la connaissez? Et la concierge, elle a dit « Oh, lui, c'est un coureur, des blondes, des brunes, des rouquines, c'est le défilé. » Elle a noyé le poisson.
Et qu'est-ce que vous faites quand vous apprenez que vous êtes recherché? Qu'est-ce que vous faites?
Ils n'avaient pas son nom.
Bah d'abord, je me teins les cheveux et puis je déménage, je m'en vais.
Alors, on m'a dit aussi que vous aviez un nom de résistante.
Madeleine.
Et pourquoi Madeleine?
Parce que ma belle-sœur, elle s'appelait Madeleine. Alors, je savais que si je me sers de son nom, elle ne me dira jamais rien, mais je ne lui ai pas dit. Hein.
C'est sûr. Et t'as piqué toutes tes belles-sœurs, toi, parce que ton nom de résistante, c'est Madeleine, tu l'as piqué à ta belle-sœur, et... Ta fausse carte d'identité, c'est Berthet. Et ça, c'était ta future belle-sœur, la future femme de ton frère. Mais elle l'a pas su non plus.
Carte d'identité délivrée le 17 juillet 1942 par le commissaire de police de Nevers. Nom, Berthet. Prénom, Flore Henriette. Nationalité, française. Profession, couturière. Née le 8 août 1919 à Lille. Taille, 1m53. Cheveux, bruns. Yeux, bleus. Signe particulier, néon.
Bah, quand j'étais contrôlée, c'était ma pièce d'identité.
Elle était très bien faite, les gens.
Oh, bah, c'était une vraie. Elle n'était pas très bien faite. C'était une vraie.
Est-ce qu'il y a des camarades à vous dont vous avez un souvenir plus particulier?
Non. Tous ceux que je fréquentais, je les aimais bien. Ceux qui militaient avec nous, avec moi, c'était tous pareils. Je n'ai pas à me souvenir d'un plus que l'autre. Nous étions des activistes et pour nous, c'était un grand mot.
Mais courant 1942, le réseau tombe.
Elle raconte qu'il y avait un restaurant qui servait justement de lieu de rendez-vous où la plongeuse, je crois, était quelqu'un de la résistance. Donc elle est arrivée, elle s'est attablée et la plongeuse est venue la voir en disant « Tu commandes vite et tu t'en vas parce qu'il y a la Gestapo qui est là. » Ils ont fait plein d'arrestations ce jour-là. Elle s'est retrouvée sans contact. Et un jour... lui est parvenu un mot d'une femme du réseau qui avait été torturée, qui avait pu faire passer un mot. Comment elle a fait? Mystère, c'est arrivé, elle ne sait pas comment, maman, ça lui est parvenu. Où elle lui a dit, j'ai parlé, mais toi, je ne t'ai pas donné. Après, elle a su, maman, par quelqu'un. On lui a dit, il ne faut pas lui en vouloir. Ils l'ont tellement torturée, elle était méconnaissable. Suzanne Astier, elle s'appelle.
Et vous la connaissiez, Suzanne Astier?
Oh, très bien. C'était une amie.
Jeanne Borzakian, une femme d'exception. Aujourd'hui, troisième épisode, Jeannette chez les FTP-MOI. Après la chute de son premier réseau de résistance, Jeannette n'a plus aucun contact. Elle passe donc plusieurs mois sans pouvoir travailler, comme elle dit. Jusqu'à ce que quelqu'un lui demande un tuyau.
Il m'avait demandé si je connaissais quelqu'un qui parlait allemand. Quelqu'un que je connaissais. Alors je lui ai dit oui. En effet, je connais quelqu'un. Je te donne la personne et toi, tu me donnes...
Tu me fais rentrer dans un réseau.
Voilà. Et moi, je veux rentrer dans un réseau.
Et donc, vous êtes rentré là?
Parce que...
Ah bah, pas comme
dit,
ça.
C'est, on ne rentre pas comme ça. Hein. Tout le monde se méfiait de moi et c'est normal. Alors, il m'a donné une personne. Oh là là, qu'est-ce qu'on a marché dans le bois de Vincennes. Ah ouais, parce qu'ils voulaient savoir ce que j'avais fait, ce que mes parents avaient fait. Si vraiment j'étais une militante. Oh là là, on a fait le bois. Il m'a demandé si j'étais d'accord. Mais j'ai dit, moi je m'en fous. J'ai dit, moi l'essentiel, c'est que je travaille pour le parti. Le reste, je m'en fous. Et comme ça, j'ai réintégré, j'ai pu reprendre une activité. Parce que vous savez, vous avez beau vouloir, mais si vous n'avez pas un parrain ou une marraine qui vous introduit, vous n'entrez pas. Hein.
Elle redevient alors agent de liaison, cette fois-ci pour les FTP-MOI, un groupe de résistance communiste qui recrute les étrangers vivant en France et les Français naturalisés. Jeannette est rapidement nommée responsable des groupes d'Europe de l'Est pour Paris et sa banlieue proche.
J'ai eu un local, 3 avenue de Paris à Clichy. Il y avait une Renéo là, il y avait une machine. Il y avait du papier pour imprimer. C'était mon fief là.
Et donc vous alliez là-bas et vous faisiez imprimer des tracts ou vous récupériez des tracts pour aller les distribuer.
Voilà.
Elle arpente Paris en tous sens afin de transmettre les documents à ses contacts. Elle ne se déplace qu'à pied car il est interdit aux agents de liaison d'utiliser le métro, beaucoup trop exposé aux contrôles et aux rafles.
Quand on lui dit « Mais qu'est-ce que vous faisiez pendant la résistance ?»«
Je faisais le tapin. »
Non, tu disais « Je faisais le trottoir. » »«
Trottoir, mais c'est pareil. Tapin et trottoir, c'est pareil. »
Mais un jour, épuisée de tant marcher, elle contrevient au règlement et prend le métro.
Mais j'étais en mission et j'avais pris le métro. On n'avait pas le droit. On n'avait pas le droit de prendre le métro. Mais j'étais tellement fatiguée, vous savez, Paris, je faisais tout à pied, hein, que j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui clochait. Alors, quand j'ai vu un type près de la sortie qui attendait comme ça, je suis pas montée dans la rame, je suis sortie de la rame, et puis j'ai regardé, et puis je suis allée directement sur le type. Et ce que je faisais, quand j'étais en mission, je prenais toujours avant l'endroit...
Un point de repère.
Un point de repère, voilà. Pour savoir si je dois sortir ou pas. Alors je voyais toujours s'il y avait quelqu'un. Mais là, je suis sortie du métro et j'ai vu que c'était pas normal. Mais ben, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allée directement sur le type qui était là, et puis je lui ai dit, écoutez, je suis descendue ici, mais je voudrais aller aux objets trouvés. Est-ce que c'est pas ici ? Je crois que je me suis trompée. Alors il m'a dit, mais non, mademoiselle. Oh, j'étais belle fille, hein. Vous montez, vous prenez tout de suite, en sortant du métro, vous prenez sur votre droite, vous allez tout droit, la première rue qui monte, vous la prenez, et après vous allez vous rentrer dans je ne sais plus ce que c'était, et puis voilà.
Et puis vous êtes sorti.
Et puis sorti. Il fallait toujours avoir l'esprit en éveil. Tout le temps.
Quand on lui montre la fameuse affiche rouge, par ailleurs exposée en grand format dans son salon, Jeanne nous donne une leçon d'humilité.
Eh bien, c'est des copains qui ont été arrêtés.
Et vous les connaissiez ?
Ben oui.
Je sais pas si par exemple, toi, tu l'as connu.
Est-ce que vous avez des souvenirs de Reimann ?
Des souvenirs particuliers, non. Vous savez, je vais vous dire franchement, nous en avons tellement vu, des durs et des pas mûrs, que dans ma tête, tout est mélangé. Vous me donnez une affiche. Je reconnaîtrai, tiens, celui-là, je me rappelle, non, je ne vois pas, là.
Oui.
Celui-là, je le vois, là. Oui, ça doit être ça. C'est tout.
Est-ce qu'il y avait une particularité à être une femme résistante ?
Non, pas du tout.
Ça ne changeait rien ?
Pas du tout. Nous étions... placé sur la même longueur d'onde.
Ouais, sur un pied d'égalité.
Non, non, égalité complète.
J'irais jusqu'à dire que dans ton couple, c'était toi la résistante et pas papa.
Parce qu'il avait eu des ordres.
Oui, oui.
Du fait que j'étais avec mon mari, on lui a dit, tu fais rien. Tu milites pas, tu fais rien. Tu dis rien. Tu ne distribues pas de tract, pas de machin. C'est Jeannette qui le fait. Toi, tu fais rien. Si elle est arrêtée, tu prends à sa place.
Le 13 novembre 1942, les parents de Jeannette sont arrêtés à leur domicile par la police française. Jeannette, elle, en réchappe miraculeusement.
Il faisait très froid. Alors j'étais porté une bouteille de thermos avec du thé à mon mari. On n'était pas mariés à l'époque. Ouais. Mais il travaillait dehors.
Ouais.
Alors j'étais porté une bouteille de thermos.
Et donc ensuite vous êtes rentré.
Et après quand je suis revenu, il y a ma voisine du troisième qui a
non, ouvert. Non, troisième c'était vous.
Alors le deuxième.
Deuxième ou premier.
Elle a ouvert la porte. Elle m'a dit Josette, sauve-toi.
Jeannette.
La police est là-haut. Elle a arrêté tes parents. Va-t'en. Comme ça j'ai échappé.
Et vous êtes allé où?
Pardon.
Vous êtes allé où?
Eh bien, je suis allée chez une cousine.
Non, mais d'abord, tu me dis que tu es allée dans un café et tu les as vus partir.
Ah oui, oui. Oui. Une voisine, elle m'a attrapée. Elle m'a dit, tu restes ici, bouge pas. Et je les ai vus. Je les ai vus
ça,
partir.
Elle vient de me le dire, maman, il y a quelques jours. Je savais pas.
Il y avait un café en bas de chez nous.
Et vous êtes installée à cette...
Ben, c'est pas moi qui m'ont obligée. Moi, des voisins, ils m'ont attrapé, ils m'ont caché. Je les ai vus monter dans le car.
Le policier, venu seul, fait appeler des renforts.
Il y avait un monde fou dans l'atelier, parce qu'il y avait toujours du va-et-vient, vu que mon oncle travaillait chez lui, mon grand-père, pardon, travaillait chez lui.
Le père de Jeannette est tailleur.
Et il y avait des Polonais qui étaient là, il y avait plein de monde. Tout le monde a été arrêté. Mais tout le monde a été relâché, sauf mes grands-parents et une femme. Donc ma tante dit que cette femme, elle ne l'avait jamais vue. Ça devait être certainement une résistante. Elle arrivait de province et elle devait aller chercher sa petite fille de 5 ans à la gare le soir. Et elle, ils ne l'ont pas relâchée non plus.
Sa jeune sœur, Germaine, présente dans l'appartement au moment de l'arrestation, réussit à s'enfuir.
Comme ils étaient tous dans cette pièce atelier et... Vers la sortie, il y avait les toilettes. Donc ils ont dit, je sais pas si c'est ton père ou ta mère, a dit à ma tante en yiddish d'aller aux toilettes et ensuite de se sauver. Elle s'est sauvée et elle raconte qu'elle est passée par les passages, tous les passages qu'il y a dans ce quartier du deuxième, en changeant de route, à chaque fois en regardant si elle n'était pas suivie. Et elle dit, j'ai mûri d'un coup. Elle a gardé après toute sa vie une allergie pour les passages. Elle n'allait plus dans les passages.
Jeannette et Germaine sont donc sauvées. Mais leurs parents, Joseph et Sarah Civier, sont transférés au camp de Drancy. Le 17 février 1943, ils feront partie du convoi numéro 48 en direction d'Auschwitz. Connu sous le nom de convoi des 1000 Français, c'est le premier convoi composé exclusivement de juifs français. Mais un mystère demeure. Les parents de Jeannette ont-ils été dénoncés? Et par qui? Jeannette vit depuis toutes ces années avec un soupçon.
Il y avait un voisin que nous fréquentions beaucoup, il habitait rue Saint-Denis, mais en face. Et son fils, il faisait partie de la milice.
C'est vrai que Christian, il raconte ça.
Ah oui, oui, ah oui, c'est vrai.
Et que Charles voulait lui faire son...
Oui, oui, c'est vrai.
À la libération.
C'est vrai.
Oui, c'est vrai. Mais bon, j'ai pas d'écrit de ça.
Pas de preuve.
Jeannette, réfugiée avec sa sœur Germaine chez une cousine du 18e arrondissement de Paris, y reste peu de temps. Sous le faux nom de Martin, elle loue avec son futur mari un appartement avenue d'Italie dans le 13e arrondissement. S'y tiennent des réunions clandestines. Jeannette y cache aussi des responsables de la MOI. Elle continuera par ailleurs, jusqu'à la libération, son activité d'agent de liaison, transportant documents et armes au mépris du danger. Prochain épisode. Après la guerre. Jeanne Borzacian, une femme d'exception, aujourd'hui, quatrième épisode, après la guerre. À la Libération, Jeannette dépose les armes, mais continue le combat. Elle entre au CADI, Centre d'action et de défense des immigrés. C'est un organisme mis en place par le Parti communiste pendant le Front populaire et réactivé à la Libération. S'y regroupent les associations de résistants étrangers proches du Parti communiste. Son objectif, faire reconnaître et avancer les droits des étrangers en France.
J'étais assistante sociale. Les étrangers qui avaient été pendant la guerre, dans la résistance, tout ça, ils avaient des difficultés pour avoir des papiers français.
C'est Jeannette qui présente à la préfecture les demandes de naturalisation.
J'étais bien connue à la préfecture. Quand je disais « celui-là, vous pouvez lui donner la carte », vous en faites pas, il avait la carte.
Et donc vous les choisissiez comment? Vous m'avez dit que vous choisissiez les dossiers.
Eh bien, l'honnêteté. C'était pas des trafiquants. Mais hein, je faisais attention. Hein.
Que ce soit pour la corrompre ou pour la remercier, on propose souvent à Jeannette des cadeaux.
Souvent, les gens que je convoyais, en somme, ils voulaient me remercier. Alors, on me proposait des bas de soie, des oranges, un tas de choses.
Mais fidèle aux enseignements de son père, Jeannette refuse tout. Et c'est pour elle un titre de fierté.
Ils ont appelé, le chef de la préfecture a appelé un jour mon chef, et puis il lui a dit « Mademoiselle Sylvier, elle est incorruptible ».
À deux reprises, pourtant, elle manque de céder. La première fois, alors qu'un de ses responsables, Édouard, est à l'hôpital gravement malade, on lui propose des oranges.
Tout le temps, on venait me proposer des oranges, un tas de trucs. Là, ce type-là, il avait beaucoup d'oranges. C'était un marchand d'agrumes. Alors, je suis allée chez ma chef. J'ai laissé mon client une minute. J'ai dit, vous m'excusez, on m'appelle. Et puis, j'ai dit, écoute, il y a un type là, il me propose une orange, des oranges. Mais Édouard, il est malade. Tu veux pas que je prenne une orange? Elle m'a dit, pas du tout. Tu prends rien. On n'a pas le droit.
La deuxième fois, c'est pour une collègue.
Alors là, c'était une copine qui venait travailler. Il y a longtemps qu'elle travaillait avec les chaussures en dessous. Il n'y avait plus de semelles. Alors, elle avait bourré ça de papier et elle marchait sur le papier. Alors, et moi, on me proposait tout le temps, on me disait, mais on ne vous propose pas d'argent, on vous donne un bon pour acheter, vous le payerez, ces chaussures.
Et donc, vous ne l'avez pas
fait. C'est-à-dire que je voulais, hein, parce que ma copine, elle venait travailler sans chaussures. Alors, je suis allée trouver ma chef. Elle m'a dit, Madeleine, non. Non, jamais. Bon, pas t'as pu. Elle venait travailler sans chaussures.
Jeannette quitte le CADI en septembre 1947 pour travailler comme gérante non rémunérée dans le modeste atelier de fabrication de jupes de son mari, André Borzacian. Josette, sa fille, naît quelque temps plus tard, en 1949. Mais à la fin des années 50, face au peu de profits générés par l'entreprise familiale, Jeannette revient à ses premières amours, la vente. Elle travaillera alors, jusqu'à sa retraite en 1978, pour différents patrons, comme démonstratrice aux Galeries Lafayette.
Vous vous y trouviez bien aux Galeries Lafayette? Vous aimiez ce travail-là? Vous aimiez ce travail?
J'aimais. Ah bah oui, j'étais vendeuse. J'ai toujours été vendeuse. J'avais une bonne clientèle, parce que quand une cliente venait me chercher un vêtement et qui ne lui allait pas, je lui disais, madame, il vous plaît, mais c'est votre corps qui ne lui plaît pas. Il ne faut pas le prendre. Il est très beau, le vêtement est beau, mais ce n'est pas pour vous. J'ai des choses plus jolies et moins chères même.
Et elle prenait son boulot à cœur, parce que, combien de fois? Parce que, évidemment, elle ne faisait pas les lettres, elle les faisait faire par sa fille, ses sœurs. Et combien de fois elle nous a fait faire des lettres parce qu'elle réclamait pour avoir un meilleur réassort. Parce qu'elle disait, je ne peux pas travailler avec la marchandise que vous me donnez.
Et donc, vous faisiez-vous les clients qui se plaignent ?
Ah non, non, non ! Elle nous dictait, et la lettre, elle l'envoyait à son patron.
Ouais.
Elle n'a jamais été pour l'écriture, maman. La lecture, oui, elle aimait bien lire. Ça la prive de ne pas pouvoir lire. Mais écrire, ce n'était pas son truc. Alors, dicter, oui. Alors, nous, on disait, stop, hein, je ne prends pas la sténo. Mais même sa sœur qui prenait la sténo, elle suivait son idée. Alors, elle s'envolait et nous, on avait du mal, hein, derrière.
Un souvenir brûle les lèvres de Jeanne.
Il y avait une fille qui venait travailler le lundi. Elle avait 2 ou 3 jours qu'elle venait. Ça lui permettait de vivre. Et puis, il y avait une chef là-dedans qui l'embêtait. D'abord, elle l'embêtait parce qu'elle était juive. Et puis, cette chef, c'était la chef de rayon. Elle n'arrêtait pas de l'embêter. Pour des bêtises, hein. Un jour, j'en ai eu marre. Elle me fait suer, cette bonne femme. Alors, un jour, j'étais en colère moi-même. J'ai dit, attends, je vais t'avoir, toi. Et puis... j'ai arrêté mon chef des galeries, qui passait dans les rayons, et j'ai dit, je voudrais bien vous parler. Il me dit, vous voulez parler, vous venez au bureau. Alors j'y suis allée. J'ai dit, écoutez, votre chef, je ne me rappelle plus comment elle s'appelait d'ailleurs, elle n'arrête pas d'embêter madame une telle. D'abord parce qu'elle est juive. Elle n'aime pas les juifs. Et puis ensuite pour son travail. Alors je viens vous prévenir parce que j'en ai par-dessus la tête. Je suis partie. Eh bien, la chef, elle est devenue volante. C'est-à-dire qu'elle n'avait plus le rayon. Elle remplaçait les chefs de rayon qui étaient en congé. Alors un jour elle était là, un jour elle était là. Elle n'a jamais su d'où ça venait. J'ai dit, j'en ai marre, hein. Elle est de chef, elle est descendue.
Voilà, ça vous fait bien plaisir.
J'étais contente, moi. J'étais contente. Une injustice, moi, je ne l'admettais pas.
Jeannette poursuit, bien sûr, une activité militante aux Galeries Lafayette, pour l'augmentation des salaires, pour la réduction du temps de travail, pour la justice sociale, en somme. Mais après plusieurs heures d'interview, Jeanne commence à fatiguer et la mémoire lui fait défaut.
Quand je vois maintenant les ouvertures des magasins le dimanche, je pense à vous, je pense sans arrêt à leur combat, parce qu'elles se battaient pour finir une demi-heure plus tôt le soir, admettons, pour fermer. Et maintenant, c'est le dimanche qu'on les fait travailler. Mmh. Et ils se sont battus, eux, pour des horaires.
Bah oui.
Et qu'est-ce que vous pensez, justement, de ce qui se passe politiquement aujourd'hui en France ?
Ben, je pense, d'abord, c'est l'argent qui manque à l'ouvrier. Alors, il ne peut pas se mettre en grève quand il veut. C'est un malheur, mais c'est comme ça. Écoute.
Ouais. Donc vous pensez qu'il y a eu une régression depuis l'époque où vous étiez
syndicaliste ? Ah oui. Moins de combativité. Ouais.
Et pareil, vu que vous avez travaillé comme assistante sociale pour donner des papiers aux étrangers,
oui.
Est-ce que vous vous intéressez un petit peu à la politique par rapport à l'immigration qui est menée par la France ?
À l'époque, je m'y intéressais beaucoup, parce que je travaillais surtout beaucoup avec des étrangers. Mais maintenant, je ne suis plus dans la course. Hein. Je ne pourrais plus d'ailleurs. Ma santé, je ne ferais pas le quart. Le quart.
Arrivée au terme de l'enregistrement, c'est à Josette, la fille de Jeanne, que je pense. C'est elle qui a mené toutes les recherches en archives pour reconstituer l'histoire de sa mère. C'est elle qui, depuis plusieurs années maintenant, œuvre à la transmission de cette mémoire. Et c'est encore elle qui, au quotidien, veille au bien-être de sa mère. C'est donc à elle que s'adresse ma dernière question.
Alors moi j'ai une question pour vous. Comment on se construit à côté ou avec une maman donc comme Jeanne, qui a quand même une mémoire qui est très très forte. Comment on se retrouve dépositaire d'une mémoire comme ça, et est-ce que c'est pas un peu lourd?
Alors il y a un autre aspect aussi, c'est que comment on se construit, si je pars là-dessus, donc pas du tout sur la mémoire. On se construit difficilement parce que au départ, parce qu'on a quelqu'un qui est tellement fort à côté de soi, et moi j'étais tellement inhibée petite que c'était timide, d'une timidité mais maladive.
Voilà. Elle était très timide.
J'étais excessivement timide.
Terrible.
Bon, j'ai guéri un peu au fil des années, mais ça m'a été très difficile et très long. J'étais incapable de prendre la parole en public. Au départ, maman aplanissant toutes les difficultés devant moi, je ne faisais pas de démarche, je faisais rien, quoi. Finalement, bon, je pense que le travail, ça permet un petit peu d'en sortir, de donner un peu confiance en soi, un peu. Et puis après, voilà, la vie s'est passée, j'ai fait un peu des voyages et... Puis petit à petit, je me suis mise à monter au créneau. D'abord, pas trop, non, pour les témoignages, tout ça. Pas du tout. Elle le faisait, elle, tellement bien qu'elle n'avait pas besoin de moi. Par contre, j'ai commencé à devenir un peu quand même plus défensive dans la vie. Elle a fini quand même par déteindre sur moi, sur ce plan-là. Et puis, depuis qu'on nous demande d'aller témoigner, donc ça doit faire 4-5 ans. Et voilà, j'ai été amenée à prendre la parole à sa place, petit à petit. Petit à petit. Et j'ai toujours su, j'ai l'impression, c'est idiot de dire ça, à 4 ans, je devais passer par grand-chose, mais pour moi, j'ai l'impression d'avoir toujours su le passé de mes deux parents.
L'entretien se termine sur une longue évocation d'André Borzakian, père de Josette, mari de Jeanne, et rescapé très jeune du génocide arménien. Nous rendons ici hommage à sa mémoire. Nous remercions enfin vivement Jeanne et Josette et leur laissons le dernier mot.
J'étais toujours une battante.
Une battante, oui.